Sandy Sabatier sur M Radio avec Grand Corps Malade pour la sortie de son nouvel album Plan B.
Bon, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Moi, voilà, je fais tomber ma bouteille d'eau. Ça commence, c'est comme ça, il y a des samedis comme ça. Mais ce sont des bons samedis, je le sens bien. Grand Corps Malade.
Ça rafraîchit un peu l'atmosphère.
Oui, ça rafraîchit l'atmosphère. Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Alors, nous sommes le samedi 2 juin, mesdames et messieurs. C'est Grand Corps Malade qui est avec moi et avec vous surtout. Donc, le plan de l'émission, vous le connaissez. C'est pas un plan B, là, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des mots qui sont sur la tablette. On va les découvrir avec ces mots. Moi, mon job, c'est de faire des questions. Et votre mission, Grand Corps Malade, c'est de faire des réponses. On commence. Le premier, c'est plan B. Alors, évidemment, ça fait partie. Déjà, pourquoi avoir appelé ça plan B?
Ben, j'aime bien cette expression. Et je trouve que, en tout cas, dans mon idée, elle n'est pas forcément péjorative. Et un plan B, ce n'est pas forcément un plan de secours. C'est aussi une deuxième chance. C'est aussi un nouveau départ. Et voilà, moi, c'est vrai que, évidemment, ça fait aussi un petit peu allusion à mon parcours. Et notamment à toute cette carrière musicale qui n'était pas forcément mon plan A, puisque moi, je faisais beaucoup de sport. Mais en tout cas, voilà, je pense que dans la vie, on est tous pareils. On vit la vie et comme on peut et voilà, des fois elle se passe pas tout le temps exactement comme on l'avait prévu et du coup voilà, il faut toujours un plan B sous le coude.
Alors, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de prudent, vous prévoyez beaucoup dans votre vie ou pas du
tout ? Non, justement, l'idée du plan B c'est plutôt il faut réagir sur le moment. Non, on part du principe que le plan A va marcher quoi et on va pas toujours prévoir le, mais voilà, une fois qu'on est confronté à quelque chose de pas prévu, et ben voilà, il faut pouvoir dégainer.
Aujourd'hui, votre plan B est devenu votre plan A ?
Ouais, c'est un beau plan A, enfin, ou alors c'est un très beau plan B, mais en tout cas ça se passe très bien. Je suis ravi, je suis épanoui et voilà, et évidemment je vis ce métier-là comme un vrai privilège.
On se connaît pas, c'est la première fois que je vous vois en vrai. Mm-hmm. Je vous ai vu évidemment comme tout le monde à la télévision. Est-ce qu'au premier regard, est-ce qu'aux premières impressions vous vous fiez ou est-ce qu'au contraire vous êtes quelqu'un qui attendait avant de connaître quelqu'un de vous prononcer comment vous êtes?
Ouais, je marche quand même pas mal au feeling, ouais. Je fais un peu confiance à ma première impression, ouais.
D'accord. Et alors, puis, on en parlera tout à l'heure, okay. La première. Allez, un deuxième mot. Charles Aznavour. Tiens, pourquoi Charles Aznavour avec vous?
Eh ben, Charles, le grand Charles, évidemment, admiration sans borne pour la carrière, le parcours. Et puis aussi pour sa curiosité. Voilà, Charles Aznavour, c'est quelqu'un de très moderne. C'est quelqu'un qui, moi, depuis que je le connais, depuis une douzaine d'années, j'ai vu à quel point il se tient toujours au courant de ce qui se fait. C'est avec ses éditions, c'est le premier qui a remis un prix à MC Solar dans les années 90, parce qu'il avait senti que là, il y avait de la vraie poésie, et alors que le rap n'était pas encore forcément du goût de tous. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très curieux, qui aime les mots, qui aime les textes, évidemment, on le sait. J'ai eu la chance qu'il vienne me voir en concert, pratiquement sur mes premiers concerts parisiens. Ça devait être en 2006 ou 2007. Donc voilà, grosse pression évidemment quant à Charles Aznavour dans la salle. Et puis voilà, j'ai eu l'occasion évidemment de le rencontrer plein de fois. Et voilà, c'est toujours un plaisir.
Vous allez être aussi l'animateur de cette émission en présentant les choix que vous avez fait pour le programme. Le premier, ça vous concerne évidemment, puisque ça fait partie de Plan B. C'est dimanche soir, nous sommes samedi. Alors dimanche soir, racontez, faites un petit peu un chapeau sur la chanson. Enfin, alors on appelle ça comment ?
Une chanson à haut, j'ai aucun problème. C'est un texte qui est sur de la musique, sur un disque. Pour moi, c'est des chansons. Il y a aucun souci.
Non, moi je disais, tiens, il a peut-être un autre mot. J'étais prêt à écouter un autre mot. Alors, chanson, alors. Dimanche soir.
Dimanche soir, c'est un texte d'amour. Alors, des textes d'amour, évidemment, on peut l'aborder de milliards de façons. Là, c'est un texte d'amour, sur l'amour qui dure. Et c'est un texte que, évidemment, j'ai écrit pour et dédié à mon épouse, avec qui je partage la vie depuis plus de 10 ans. Et voilà, en fait, pour la petite anecdote, c'est elle, à la base, qui n'aime pas trop les dimanches soirs. C'est elle qui a plutôt peur du dimanche soir. Elle m'avait dit un jour, moi, si j'écrivais, j'écrirais un texte qui dirait « Depuis que t'es là, j'ai plus peur du dimanche soir ». Alors, je lui ai piqué son thème, et je le dis bien dans le texte, hein, je lui dis « C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire ». Parce que voilà, le thème du dimanche soir, ça lui appartient. Et donc voilà, je lui ai dédié ce morceau, qui est évidemment celui dont j'ai eu le plus de retours sur cet album-là, parce que je me rends compte évidemment que les textes qui peuvent paraître comme ça les plus personnels, en fait, sont les plus universels. En fait, vous n'apprenez rien sur mon couple, hein, je parle juste des sentiments qui me traversent, et ces sentiments-là, ils parlent à tout le monde, parce qu'on a tous les mêmes.
Alors vous serez le 14 juin à Montréal, c'est loin mais c'est beau comme on dit, le 21 juin à Luxembourg, le 23 juin à Fresnes, le 24 juin à Moissac, puis je donnerai tout à l'heure les dates pour le mois de juillet. Tout de suite, extrait de Plan B, avec Grand Corps Malade qui est votre invité, dimanche soir.
Midi 13h, samedi, Sabatier. Patrick Sabatier est sur M Radio. Samedi Sabatier, l'interview.
Bah, je suis très content de vous connaître, enfin d'essayer de vous connaître.
Bah, enchanté,
parce
ça
que, moi aussi. En plus, vous faites partie de ces gens, quand on écoute leurs chansons ou leurs textes, on a l'impression de les connaître parce qu'on se dit que vous êtes comme un écrivain qui est obligé un petit peu de parler de lui, d'aller chercher à l'intérieur de lui tout ce qu'il raconte, parce que ça ne s'invente pas une vie.
Bien sûr, ouais, j'ai souvent sur mes albums, depuis le début, des textes assez personnels, en tout cas, évidemment, où je vais chercher des choses qui m'appartiennent, que j'ai vécues, que j'ai croisées, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur, en parlant de dimanche soir, c'est, j'ai l'impression que quand je dis des choses qui m'appartiennent, bah, ça parle aux gens, parce qu'on est tous des êtres humains.
Et, on a beaucoup de points communs.
On a tous des points communs, c'est sûr, on est très traversés par les mêmes envies, les mêmes échecs, les mêmes espoirs.
Un autre mot, alors. J'y pense tous les jours. Vous pensez à quoi tous les jours? Ou à qui?
Ah bah, mes enfants, forcément. C'est quand même le plus grand bouleversement de ta vie quand tu deviens papa. Et j'ai deux jeunes garçons qui sont voilà 8 ans et 4 ans, donc ils sont pas encore très vieux. Et forcément, bah voilà, même quand je suis en tournée, bah voilà, j'essaie toujours d'avoir le moment d'un petit coup de fil, d'un petit FaceTime maintenant, ouais. puisque ça, la technologie permet maintenant de les voir à n'importe quel endroit du monde. Donc ouais, j'y pense tous les jours. Évidemment, c'est la famille.
Question d'un enfant. Papa, c'est quoi la vie?
Ah, j'en ai plein des questions comme ça. j'aurais envie de lui dire, écoute, je te laisse un petit peu mettre ta propre définition. Sois curieux, regarde autour de toi, puis tu me réponds dans quelques années.
Allez, un autre mot. Souvenir du basket. Alors, c'est vrai que vous étiez destiné, la vie en a décidé autrement, mais est-ce que vous avez, comme ça, on disait tout à l'heure, j'y pense tous les jours, des souvenirs de ces moments-là?
Bien sûr, ouais. Je suis assez nostalgique. Alors, pas que des souvenirs de basket. Je suis un nostalgique de plein de périodes, mais depuis longtemps. Et du coup, ouais, j'ai écrit un texte qui s'appelle Acouphène, justement, où je parle des...
On va écouter tout à l'heure.
Je parle justement des bruits de mon passé. Et bah, dans ces bruits, forcément, il y a des ballons qui rebondissent sur des terrains en parquet et des semelles qui crissent. Enfin, voilà, le basket, il y a des bruits inimitables avec le sifflet des arbitres et les entraîneurs qui te gueulent dessus. Voilà, bah, tout ça, évidemment, c'est des très bons souvenirs et bien sûr que j'y pense, ouais.
Un autre mot dans l'émission de Grand Corps Malade que vous écoutez. Premier album, midi 20. Ah non! Ça, c'était, si mes souvenirs sont bons, c'est en 2006.
Exactement.
Donc, ça fait quand même 12 ans.
Déjà.
Ça me paraît une éternité.
Ouais, moi aussi, parce que, en fait, plus tu fais des choses et plus t'as pas l'impression que le temps passe. Et c'est vrai qu'en 12 ans, j'ai eu la chance de faire ces 6 albums, de faire des longues tournées, de faire un film. Là, on est sur le deuxième. Enfin, voilà, ça a été très, très, très riche ces 12 années-là. Et vraiment, je vis ça comme ce que je vous disais tout à l'heure, comme un luxe, comme un privilège. Moi, je suis toujours émerveillé, en fait. Moi, à chaque début de tournée, quand j'arrive dans les premières salles et que je vois qu'il y a 1500 personnes en face qui m'attendent, je me lasse, mais alors vraiment pas. Je crois que je suis l'artiste sûrement le moins blasé du monde, parce que voilà, je savoure, j'ai cette petite capacité à prendre du recul. Donc voilà, je savoure cette chance.
Grand Corps Malade, quand vous étiez du côté des spectateurs, vous alliez voir quel chanteur aimiez-vous écouter?
Oh, celui que j'ai le plus vu, ça doit être Renaud. Ouais. Je suis un grand fan de Renaud, je l'ai déjà dit, lui-même le sait. Et c'est Renaud, j'ai dû le voir bien 7-8 fois en concert avant mes 20 ans, quoi.
Et vous n'imaginez pas du tout être sur la scène un jour, là?
Non, bien sûr. Oh non, jamais. Ah non, ça, j'ai découvert cette petite fibre artistique sur le tard.
Qu'est-ce qui se passe la minute qui précède votre entrée en scène? Vous avez un rituel? Vous faites quelque chose? Rien?
Non, pas trop. Je suis pas trop. J'ai pas trop de stress. Je suis pas le plus superstitieux. J'ai pas des tocs avant de monter sur scène. Alors voilà, souvent avant de monter sur scène, voilà, on se réunit avec les musiciens et puis voilà, on se congratule, on se prend dans les bras juste pour dire allez, amusez-vous bien et on se retrouve tout de suite sur scène. Mais après. Voilà, ce moment-là, il est plutôt agréable. Ça y est, on y va. C'est la demi-heure qui vient d'avant, quand t'es dans les loges, que tu sais que le public est déjà là. Là, t'as envie que ça commence. Mais ça va, je suis pas trop stressé.
Ça commencera le 1er juillet à Audincourt. Ça commencera le 7 juillet à Saint-Sigolène. C'est dans le 43 à Bobital. On apprend des tas de trucs dans cette émission. Bobital, c'est en Bretagne. C'est vers les Côtes d'Armor, je crois. Le 19 juillet à Saint-Pierre-de-Chartreuse et le 21 juillet à Metz. Alors là, on va écouter, c'est votre choix, Christine, pas toute seule, in the Queens, avec Saint-Claude. C'est Grand Corps Malade, vous êtes sur M Radio. Je vais vous dire un truc, vous avez raison.
samedi Sabatier sur M Radio avec Grand Corps Malade pour la sortie de son nouvel album Plan B.
Alors l'affiche de l'album, enfin l'affiche, la couverture, je sais pas comment on appelle ça maintenant, l'image, la pochette, ouais, tout simplement. Appelons un chat, c'est vous qui l'avez choisi. Vous vous trouvez comment dessus ?
Bon, c'est pas ce que je préfère, faire des photos et me voir en photo, mais on s'y fait. Hein. C'est comme la première fois que tu entends ta voix dans tes enceintes, tu dis non, mais ça, c'est pas ma voix.
Donc, ah oui, bon, ça vous a fait ça pour la voix ?
Au tout début, ouais, au tout début. Après, bah, évidemment, tu t'y fais. J'ai eu l'occasion de l'entendre quand même pas mal quand tu fais des albums. Bon, la pochette, c'est pareil. Voilà, bon.
Cette voix-là, pour parler de la voix Grand Corps Malade, vous l'avez depuis toujours ?
Bah oui, j'ai...
Quand vous étiez préado, ouais, 14-15 ans, vous l'avez ?
Ouais, c'est ça, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop longtemps la voix qui déraille au moment de l'adolescence, et puis j'ai rapidement eu cette voix grave. Ouais.
Allez, un autre mot qui apparaît sur la tablette, et je fais une question avec juillet 97, c'est l'accident. Est-ce qu'on y pense encore ?
Ah, l'accident lui-même, non, pas vraiment, ça peut arriver, mais ouais, c'était il y a plus de 20 ans... voilà, c'est quelque chose qui a été bien... Enfin, voilà, c'est du passé.
Ouais. Et en même temps, ça fait partie de vous.
Bien sûr, ah bah ouais, là, quand t'as des séquelles d'un accident, ça fait partie de toi jusqu'à la fin, c'est sûr.
Mais vous êtes l'exemple même qui fait qu'on peut vivre avec.
Ouais, bien sûr, on peut vivre avec. Après, moi, j'ai la chance d'être debout, hein, ça change déjà pas mal de choses. Bien sûr, j'ai des grosses séquelles, mais après, je suis debout et c'est tout de suite plus facile... pour aller voir des spectacles, pour prendre les transports, pour prendre le train, etc. On sait en France que les personnes en fauteuil roulant sont vraiment voilà, encore très, très, très embêtées parce qu'on a beaucoup de retard d'accessibilité en France, c'est sûr.
Un autre mot dans votre émission, mère bibliothécaire et père aux fonctionnaires. Vous avez de quoi de vos parents ?
Oh bah j'ai plein de choses de mes parents parce que voilà, on était une famille assez proche, assez soudée, unie. Et bah je leur dois plein de choses. J'espère que je leur dois... cette espèce de curiosité ou d'ouverture sur le monde, de tolérance. Enfin voilà, j'aime les valeurs de mes parents, j'espère que j'en ai un peu hérité. Et puis après, mère bibliothécaire, bon, ça ne veut pas dire que j'ai énormément lu, c'était son grand désespoir. Elle trouvait toujours que je ne lisais pas assez.
Généralement, c'est comme ça, les mères bibliothécaires. On ne lit jamais assez, surtout, comme les mères profs.
Voilà, surtout quand tu as une mère bibliothécaire. Et après, mon père, haut fonctionnaire, c'est pas haut fonctionnaire d'État, etc. Non, c'est la fonction qu'on appelle, messieurs, dames, la fonction publique territoriale. C'est-à-dire qu'il bossait dans des mairies, et notamment à la mairie de Saint-Denis, pendant pratiquement toute sa carrière. Donc voilà, j'ai reçu de mon père voilà, le goût du service public, et je sais à quel point c'est important. Et voilà, mon père, il a dévoué toute sa vie à essayer de s'occuper des autres au niveau local, et pour moi, c'est très important.
Quel est celui des deux qui vous a donné l'amour des mots ?
Les deux, vraiment. Alors, pas directement, mais j'ai eu la chance, voilà, dans le salon de la maison, il y avait toujours de la belle chanson française. Et les deux, voilà, Aimé, Barbara, Ferrat, évidemment, Brassens, Brel. Donc voilà, j'ai été baigné là-dedans tout petit. Donc c'est grâce aux deux que les mots, très rapidement, sont entrés dans les oreilles.
Avec les mots peuvent apporter la paix ?
Oh, la paix, je sais pas, oui, la paix intérieure sur des petits moments, pourquoi pas, ouais, ça peut... On sait que la musique adoucit les mœurs, et les mots, bah voilà, les jolis mots, les belles histoires, ça peut apaiser, moi j'aime bien.
Allez, un autre mot justement avec lequel je vais faire une question, comment lui dire ? Comment dire les choses justement avec ces mots ? Comment vous travaillez ? Vous avez votre ordi ou alors la feuille blanche, où l'idée est déjà construite dans la tête, et puis après, il faut simplement, entre guillemets, accoucher ?
Eh ben c'est exactement ça. Je me mets jamais devant ma feuille en me disant allez de quoi il faut que j'écrive un texte, de quoi je vais bien pouvoir parler. Non, j'ai toujours une idée voilà qui s'est construite un peu dans un coin de cerveau. J'ai le thème, j'ai la manière de d'attaquer le thème, peut-être même les premières phrases. Et du coup voilà quand j'ai ça, en effet, après il faut juste trouver voilà 2-3 heures pour pouvoir mettre les choses en forme. Parce que mettre les choses en forme c'est pas le plus dur. C'est même je dis pas que c'est facile, mais en tout cas c'est un jeu très agréable de trouver la bonne rime, le bon mot, la belle image, la bonne expression. Donc voilà, ça c'est très agréable, mais d'abord il faut l'idée principale.
Pierre Perret, que vous connaissez certainement, qui est un amoureux des mots également, me confiait souvent qu'il a besoin de s'en aller de Paris, d'aller loin, d'être seul pour écrire, et quelquefois comme un artisan, de passer, repasser, repasser pour que une chanson soit à la hauteur de ce qu'il désire. Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que vous êtes plutôt plus spontané ?
Non, plutôt spontané et j'ai pas besoin de quitter Paris. Je peux écrire vraiment voilà chez moi, à la terrasse d'un café, dans le train. Voilà, j'ai pas besoin de me mettre dans une atmosphère particulière.
On va écouter Acouphène. Donc ce sont les bruits qu'on a voilà, du passé.
Les bruits du passé qui se mélangent Et voilà, qui, ce sont des acouphènes de nostalgie.
Midi 13h, Samedi Sabatier, l'interview sur M Radio.
Alors vous le savez, le samedi, nous avons le temps de parler et surtout d'écouter. L'invité, c'est Grand Corps Malade. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces dates du mois de juin, puisque nous sommes le 2 juin. Je vous ai parlé du mois de juillet. Je ne vais pas vous inviter à Crozon, parce que le Festival du Bout du Monde pour Grand Corps Malade, c'est full up, c'est complet, enfin full up, je ne vais pas dire, complet en français, voilà. Et puis 15 et 16 septembre, alors là, si vous êtes dans la région parisienne, c'est à Vannes et puis à la Courneuve. Et puis je rappelle qu'il y a une date supplémentaire à Pleyel.
Au
mois de décembre, il y avait le 6 et le 7.
On a ouvert le 9.
Et dès lundi prochain, vous pourrez aller réserver vos places pour le 9. Alors, on va continuer avec un autre mot. Ma première scène, le réservoir. Est-ce qu'on se souvient des débuts, ça fait pas, on parlait d'acouphènes. Tout ce qu'on vit, on l'emmagasine.
Ouais, bien sûr, sur tous ces moments-là. Alors, la première scène un peu officielle, le spectacle un peu officiel, c'était le réservoir. Mais avant, il y avait eu au moins 3 ans de slam dans des tout petits bars. Et ma première vraie scène, c'était dans un tout petit café qui s'appelait Teranga, vers la place Clichy à Paris. Et là, c'était un tout petit bar africain. Il y avait une 30aine de personnes. Mais c'était ça, la vraie première scène, la première fois où j'ai déclamé un texte en public. Évidemment, cela, on s'en souvient. Ouais.
À partir de quand vous avez eu confiance en vous?
Bah, assez rapidement, j'ai senti que, évidemment, les premières fois, t'as un trac terrible, mais voilà, j'ai senti qu'il se passait un truc, une interaction avec le public était réceptif, puis voilà, on est dans un bar, c'est convivial, donc après, ils viennent te voir, et voilà, ils te félicitent, ils t'encouragent, et donc très rapidement, j'ai senti que, j'étais à ma place, quoi.
Allez, un autre mot, vous êtes à votre place dans cette émission. Quand j'étais petit, quel est le plus lointain souvenir, grand comme malade, que vous ayez de vous? Quoi, vous avez 4 ans, vous avez 5 ans, vous avez 6 ans?
Ouais, je dois avoir plutôt 4 ans. Ouais.
Alors, ouais, comment vous êtes à 4 ans?
Comment je suis, ça, je sais pas
trop. Un de vos enfants a 4 ans?
Ouais, ouais.
Alors, le papa, il y a très longtemps, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il a 4 ans, il est comment?
À 4 ans, non, j'ai quelques images. Après, je ne sais pas exactement comment j'étais, mais très rapidement, en tout cas, dès la petite enfance, j'étais très dynamique. Voilà, déjà, plutôt très sportif, un peu casse-cou. Je ne devais pas être très facile à gérer. Enfin, voilà, fallait me canaliser. Parce que, voilà, il fallait que je cours, il fallait que je fasse des trucs.
Des frères, des sœurs?
Une grande sœur, ouais.
Une grande sœur que vous avez aujourd'hui?
Oui, oui, toujours.
Et avec qui vous vous entendez bien?
Ouais, très bien, très bien. Elle habite aussi en région parisienne, on se voit souvent.
Et votre célébrité n'a pas changé vos rapports?
Avec la famille, non, ouais. non, pas du tout. Non, tout va très bien.
Non, mais c'est pas parce que très souvent, quand il y a un membre de la famille qui devient un peu célèbre, lui, il a pas changé, mais c'est le regard des autres sur lui qui change.
Ouais, donc du coup, non, leur regard a pas changé. Ils sont très heureux, très fiers, et en même temps, on partage plein d'autres choses que les choses liées à mon métier. Donc, non, ça va très bien.
Vos enfants ont 4 ans et 8 ans. Quel est le rôle de père que vous avez? Comment vous conduisez-vous? Parce que c'est tellement important.
Bien sûr, je pense être assez papa gâteau, quoi, assez très proche d'eux. Et j'ai la chance d'avoir un métier où quand t'es là, t'es vraiment là. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des fois où je suis en tournée, mais j'organise la tournée en fonction d'eux. Je fais jamais plus de 3 dates d'affilée parce que je veux rentrer à la maison. Je veux évidemment les voir très souvent. Et puis en plus, du coup, quand t'es pas en tournée, t'as pas des horaires de bureau, tu peux être assez présent. Donc j'en profite, je suis très... Voilà, je fais de mon mieux, hein, comme tout le monde. Hein. L'éducation, c'est toujours là une grande question. Mais en tout cas, voilà, je sais que je suis proche d'eux. Ils me racontent leur journée. On fait plein de choses ensemble et ça, c'est déjà ça.
L'actualité, c'est aujourd'hui 2 juin, Plan B, qui est sorti il y a quelques temps. On continue avec un autre mot. La moralité, c'est... Alors, la moralité de la vie, la moralité... Comment faut-il se conduire? Il y a un mot qui est très important quand même, c'est le mot respect. Et c'est le seul mot qui devrait nous conduire les uns les autres, parce que pour vivre ensemble, c'est quoi votre moralité?
Ouais, c'est ça, respect. Et du coup, j'aime bien le mot partage aussi. Parce que dans le mot respect, il y a forcément cette notion de l'autre. Dans le partage aussi, moi, la moralité dans la vie, c'est très compliqué à définir comme ça en une phrase. Mais en tout cas, ce serait forcément un truc lié au collectif. C'est que voilà, on a la chance d'être ensemble, de vivre ensemble dans toutes nos différences, de monter des projets ensemble. Voilà, pour moi, c'est important cette notion de collectif. Si t'es tout seul devant ton gâteau, c'est tout ton repas qui est moche, quoi.
Vous avez choisi d'écouter Véronique Sanson.
Oui.
Vous la connaissez bien?
Oui, j'ai eu la chance de chanter avec elle. On a fait un duo ensemble qui s'appelait... c'était pas Plan B, c'était Face B, parce qu'on parlait de la nuit. C'était Face B. Et voilà, on a été sur scène ensemble. Et c'est évidemment une grande dame et une grande artiste.
Le titre que l'on va écouter, c'est « Besoin de personne ». Mais nous, on a besoin de vous pour l'écouter.
Samedi Sabatier sur M Radio, avec Grand Corps Malade, pour la sortie de son nouvel album, Plan B.
Alors, il y a encore un petit peu de temps, j'en profite de vous avoir pour... ça vous ennuie pas de
On est bien, on est bien, Patrick.
Allez, on y va, un autre mot. Quand je suis amoureux, vous avez été souvent amoureux, je parle pas de votre épouse là, mais avant vous avez été...
Non, pas très souvent, j'ai pas un cœur, je suis pas une éponge, comment on dit, un cœur d'artichaut. Ouais. Non, je tombais pas amoureux chaque semaine.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux de votre femme? Qu'est-ce qu'elle avait de différent des autres?
Parce que c'était la plus belle, la plus intelligente, la plus drôle.
Parce que c'est la plus belle.
Hein. Ouais, mais je suis tombé, toujours, bien sûr. Non, bon après quand...
Non mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Parce que c'est aussi miraculeux ça l'amour, hein. On se l'explique pas toujours.
Ah, c'est justement parce que c'est miraculeux que voilà. Je peux pas vous l'expliquer.
Oui, mais quand même on se dit, bon, hein, c'est pas monter là-bas aussi parce que c'était lui, parce que c'était moi. Là, qu'est-ce qui vous a plu tout de suite?
Ben c'est un, ouais, c'est indescriptible. J'avais écrit un premier texte de déclaration d'amour qui s'appelait Comme une évidence. Bah voilà, bah pour moi c'est ça, c'est quand t'as l'impression que les choses sont évidentes. Voilà, c'est comme ça.
Alors. Je ne vais pas plus loin. Allez, un autre mot. Ségolène Royal. Alors, pourquoi on a mis Ségolène Royal? Parce que vous la connaissez bien?
Non. Je l'ai croisée. Elle était venue me voir en concert. Bon, en même temps, elle était en campagne. C'était en, je crois, 2006, enfin, avant les présidentielles de 2007.
Oui.
Et non, je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas. Peut-être que dans des articles comme ça, on a trouvé que Ségolène Royal disait du bien de vous. Et que vous vous intéressez beaucoup à la politique?
Ouais, je m'intéresse, je vote, je me tiens au courant, j'essaye de lire un peu. Ouais, je me sens très concerné, très citoyen.
Dans les textes que l'on dit, que l'on chante, que l'on interprète, il y a toujours une forme d'engagement, de parti pris, on va dire, de parti pris. Et ce qui est d'ailleurs normal, la neutralité n'existe pas dans l'art. Est-ce que vous pourriez penser qu'un jour vous iriez chanter pour quelqu'un, pour défendre ses idées?
Non, je me sens pas de... C'est toujours très compliqué, hein, la relation artiste avec homme politique, on a peur de la récupération, on a peur... Donc moi, je me sens pas du tout à ma place. Sur les dernières présidentielles, j'ai été plus ou moins, plus que moins d'ailleurs, approché par différents candidats. Parmi ces candidats, bah, y a celui pour qui j'ai voté. Bon, mais ça veut pas dire que je vais quand même aller, aller le supporter officiellement, monter sur scène avec lui, voilà. J'ai cette sorte d'engagement, et peut-être même le mot est trop fort, dans mes textes, dans mes actions locales. Voilà, je suis parrain d'association, je fais des choses à mon niveau. Mais voilà, c'est compliqué pour un artiste. J'ai trop peur même d'être déçu. Des fois, tu dis, allez, t'appelles à voter pour un tel. Et puis, comme malheureusement, des fois en politique, t'es souvent, ça t'arrive quand même d'être déçu. Et l'année d'après, de dire, ah bah putain, si j'avais su. Donc voilà, du coup, je reste à ma place.
Alors, un autre mot, justement, on parlait d'association. L'association... Sourire à la vie. Alors, parlez-nous de
association extraordinaire qui est basée à Marseille et qui accompagne des enfants malades du cancer. Alors, ils font avec eux des choses extraordinaires. Déjà, ils les accompagnent depuis le diagnostic, plein d'animations dans les chambres d'hôpitaux, etc. Et puis, dès qu'ils peuvent, ils les font sortir. On a une maison qui s'appelle le Phare des Sourires à l'est, dans le quartier de l'Estac à Marseille. Et puis là, on fait des stages, on fait toutes sortes de choses et on monte aussi des spectacles. Donc on a fait vraiment des spectacles très professionnels avec une trentaine d'enfants. J'étais sur scène avec eux. Il y avait Richard Boringer avec nous, qui est aussi qui est devenu presque un parrain bis de l'association. Il est tout le temps avec nous. Et puis on organise des voyages absolument extraordinaires. L'hiver dernier, ils sont allés faire du chien de traîneau en Laponie et dormir en autonomie pendant une semaine dans des igloos, etc. En gros, ces enfants-là vivent des choses terriblement dures et on essaye de compenser en leur faisant vivre des choses assez extraordinaires.
Quel âge ont-ils?
Ils ont entre 5 et 18 ans. Ils ont
5 et 18 ans. Bravo.
Ben en tout cas, non, mais c'est vraiment...
Non, mais bravo à vous, parce que c'est jamais évident.
Écoutez, moi, t'es souvent sollicité pour plein de partenariats, et puis des fois, tu peux pas faire grand-chose. Là, en tout cas, c'est une association où je me sens utile, parce que je suis sur scène avec eux. Je participe à la recherche de fonds, parce qu'évidemment, c'est le nerf de la guerre. D'ailleurs, voilà, n'hésitez pas, Association Sourire à la Vie, sur les Facebook, les sites internet... Vous pouvez toujours donner, allez vous renseigner parce que voilà, je salue au passage Frédéric Soto, le fondateur, directeur de l'association, qui fait un boulot remarquable.
Merci d'en avoir parlé. Il est presque 13h. Encore un dernier mot peut-être. Dans 20 ans, vous serez où dans 20 ans?
Voilà, bah là, je vais être assez muet sur ce mot-là. Je me projette rarement si loin. Voilà, j'essaye toujours d'avoir un petit coup d'avance sur l'année prochaine.
Dans 20 mois.
Ah, dans 20 mois, c'est déjà plus intéressant.
Dans 20 jours.
On est en pleine, en pleine préparation du film. On tourne.
Qu'est-ce que c'est que ce film?
On va parler d'école. On va parler d'un collège en banlieue parisienne. Le film s'appellera La vie scolaire et on tourne cet été. Quand je dis on, évidemment, avec tous nos acteurs, ça, mais aussi avec Mehdi Idir, avec qui j'avais réalisé le premier film, Patient. Ouais. Donc voilà, on est en plein dedans. Donc c'est passionnant parce que là, on bosse surtout avec des ados. Et voilà, les adolescents, ils t'emmènent ailleurs.
C'est un documentaire ?
Non, c'est vraiment un film de fiction. Alors évidemment, on s'inspire de notre passé, Mehdi et moi, parce qu'on a grandi dans ces établissements-là, les fameuses ZEP. Alors maintenant, ça s'appelle REP, Réseau d'éducation prioritaire, c'est-à-dire les collèges dans les quartiers plus très populaires, plutôt difficiles, comme disent les médias. Mais en tout cas, c'est des quartiers dynamiques, c'est des collèges où il se passe plein de choses. Donc voilà, on va rentrer dans le quotidien d'un collège de Saint-Denis.
Ça s'appelle Plan B. Première impression, c'était il y a une heure. Deuxième impression, une heure après, ça va?
Ouais, mais après, Patrick, on vous connaît depuis longtemps à la télé. On peut, c'est
mais
pas comme
est-ce
si c'était
que
une découverte.
Alors, attendez. Est-ce que ce que l'on montre de nous à la télé, ce que l'on montre de soi quand on est un chanteur ou un acteur, est-ce que c'est tout? Non, on a une autre partie de nous-mêmes.
Ouais, mais après, là, en une heure, j'ai pas encore vu toutes vos facettes, Patrick. Mais en tout cas, voilà, la sympathie que vous dégagez à la télé, on la ressent tout de suite.
Mais moi non plus, j'ai pas vu tout de suite. Moi, je suis super content. Je fais partie de ces gens qui ont été surpris par votre talent. Comprenez ce que je dis. C'est-à-dire qu'ils ont été intéressés. Voilà, vous m'avez intéressé parce que vous racontiez la façon dont vous le faisiez. Puis après, vous m'avez emmené dans vos histoires. Et c'est comme un livre, c'est comme un film. Au début, on se dit, tais-toi, écoute. Et puis c'est vous qui parlez et qui chantez. Plan B, merci beaucoup d'être
merci
venu.
À vous.
Il est 13h, dans quelques secondes, vous êtes sur M Radio et on se retrouve, la semaine prochaine, on sera le 9 juin déjà. Oh et on est là tout le mois de juin. Allez, au revoir.